L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 25 juin 1876. Il est 15h. L'est du Montana est une région sauvage et dangereuse en ce début d'été 1876. Patiemment, discrètement, le lieutenant-colonel Custer et son régiment du 7e de cavalerie s'installent sur les hauteurs bordant la Big Horn River, non loin d'un petit cours d'eau qu'on surnomme affectueusement la Little Big Horn. En contrebas, leur cible s'étend sous leurs yeux ébahis. Ce camp amérindien est bien plus grand que ce qu'ils pensaient de prime abord. La colonne se prépare. L'effet de surprise est indispensable pour prendre en tenaille les tribus unifiées. Dans quelques instants, le plus célèbre épisode de la guerre des Black Hills va se mettre en marche. Le destin, lui, se joue à pile ou face. Il est 15h, l'heure H de mon histoire. Quelques heures plus tôt, George Armstrong Custer menait ses hommes avec fermeté. Lieutenant-colonel depuis un an, il n'est en mission dans les Black Hills que depuis quelques mois. Il marque un arrêt le temps d'étudier le terrain qu'il connaît déjà bien. Il reluque ses épaulettes. Il le mérite assurément, ce grade, récompense d'une carrière déjà rondement menée alors qu'il est à l'aube de sa 36e année. Mais à vrai dire, cela a été une surprise pour lui aussi d'être nommé l'été dernier à ce niveau de responsabilité. En repensant à cet épisode, Custer sourit derrière sa moustache qui recouvre entièrement ses lèvres. Sa chevelure blonde, bouclée, vient mourir au-dessus de ses épaules. Intrigué par cette progression qui semble presque trop facile au cœur de ces immenses plaines vallonnées, Custer descend de cheval avec souplesse et habileté. Oh, il n'est pas bien grand, l'homme de guerre qui s'apprête à terroriser les natifs américains remontés à bloc contre les visages pâles. L'oreille posée contre le sol, le militaire attend. Une minute passe, puis deux, puis... 5. L'un de ses adjoints veut lui demander quels sont ses ordres. Il l'interrompt d'un bras levé. Custer n'est pas fou. Il veut écouter si la terre est son allié. Mais rien. Pas de bruit de sabots ou de troupes en mouvement. Il faut donc continuer. Comme un cabri, notre homme remonte à cheval, manque de déchirer son pantalon en l'accrochant dans la selle, grommelle et donne l'ordre à la colonne de repartir. Le piège avec les Sioux est justement de rester trop statique. Du mouvement, encore et toujours. Et les attraper par surprise, c'est là sa meilleure chance. La terre est sèche. Le nuage de poussière qui se lève derrière les sabots est un élément dont Custer doit tenir compte. Les Indiens sont les rois de l'interprétation des signes divers et variés. La nature est leur guide. Ils ont une confiance aveugle dans les signes qu'elle leur envoie au quotidien. Et même s'il a le chapeau de l'US Army vissé sur le crâne, Custer est de ceux qui admirent ça. Cela lui a d'ailleurs valu un passage houleux en commission peu avant sa promotion l'année dernière. Il déteste la façon dont le Bureau des Affaires Indiennes, l'organe de l'administration chargé des natifs, traite ces gens, les considérant avec mépris. Comme une sous-race qui doit plier ou mourir. Le lieutenant-colonel, lui, n'est pas de cette trempe-là. Le regard sombre, Custer fixe l'horizon et les montagnes qui se dressent face à lui. En contrebas, la petite rivière qu'il cherche, et certainement à côté, le camp de ses ennemis. Cette région des Black Hills, il la connaît comme sa poche. Il est déjà venu ici il y a 2 ans. Le sujet autour de ce territoire, Lakota, est particulièrement sensible au gouvernement. Depuis des siècles, méthodiquement, les populations de natifs sont déplacées encore et toujours. Cette région-là reste pour eux le poumon de leurs croyances, une terre sacrée, au sein de laquelle leurs ancêtres sont encore présents. Boisés, immenses. Ces espaces font l'objet d'un traité signé entre le gouvernement américain et les Amérindiens en 1868. Après la ruée vers l'or et ses conséquences catastrophiques pour les populations locales, ce cœur formé par ce qu'ils appellent les collines noires, les Black Hills, est sous totale protection. Il ne peut être violé par personne. Custer ne peut s'empêcher de lâcher un rire entre ses dents. Protégé. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Alors que ses cavaliers se suivent en formation dans un calme olympien, presque christique, le lieutenant-colonel ne remarque pas une forme lointaine et sombre sur la droite de la colonne. Derrière un bois étouffu, en lisière et bien caché, un guerrier Sioux regarde avec stupéfaction ce régiment ennemi transiter vers le plus grand camp des tribus coalisées contre les Blancs. À brides abattues, il s'élance avertir les autres. Custer et les siens ont été repérés. Mais ça, les hommes de l'US Army ne le savent pas encore. Tout au contraire, ils pensent encore maîtriser l'effet de surprise. Custer a un plan. Une demi-heure plus tard, le chef du régiment et certains de ses hommes arrivent en éclaireur à proximité des montagnes qui protègent le camp amérindien. Là, Custer se rend tout de suite compte que les informations qu'il a reçues sont erronées. Alors, certes, ils sont bien là, les ennemis. Mais ils sont beaucoup plus nombreux que prévu. Ce qui rend l'effet de surprise beaucoup plus hasardeux. Autant de tipis, de femmes, de familles, de jeunes enfants, cela laisse présager un nombre incalculable de guerriers. Certainement plusieurs milliers. Peut-être plus. Custer rassemble ses idées et c'est d'échafauder un plan. Il a de son côté un peu plus d'un millier de cavaliers disponibles. Le nombre est intéressant, mais il est impossible d'attaquer sur un seul front. Ils devront se diviser, tenter de jouer sur plusieurs tableaux pour provoquer la panique dans les rangs ennemis. L'officier de cavalerie fait venir ses deux subordonnés, Reynaud et Bentin. Et vous verrez, ces deux-là bientôt joueront un rôle déterminant, mais en attendant, Custer leur demande de partir sur deux positions séparées. L'un en contrebas des collines attaquera le premier. L'autre au centre se tiendra prêt à porter secours à Custer ou à l'autre colonne en cas de difficulté. Imparable. Tout est prévu pour réussir. Alors que vient le moment de prendre congé, de se diriger chacun vers sa position, Custer remarque un regard bref mais non équivoque entre les deux hommes qu'il vient de briefer. Le genre d'échange qui vous laisse une impression bizarre, particulière, au fond de la gorge. Dubitatif, le lieutenant-colonel attend un peu, les regarde partir au grand galop vers leur section. Déjà, ils s'organisent, divisent leurs troupes, écoutent les ordres. Mais l'amertume que Custer sent dans sa bouche a comme le goût désagréable de la trahison, ou du moins des non-dits. L'urgence des événements, l'imminence de l'attaque aussi, ne lui permet pas de s'attarder sur cette fâcheuse sensation. Il est temps d'agir. Les analyses, elles, viendront plus tard. Custer prend ses hommes derrière lui, se place là où il l'avait annoncé aux autres commandants de peloton. Il attaquera juste après son collègue, qui est parti le premier, pour prendre les natifs en tenaille et leur faire croire que les Américains sont en supériorité numérique. Custer est persuadé que son plan va fonctionner, du moins si la symbiose entre les groupes est totale. Il ne devrait pas douter et pourtant un pressentiment l'assaille de manière insidieuse. Une petite voix au fond de sa tête lui souffle que ce combat qui entre dans l'histoire par la grande porte ne va pas forcément tourner en sa faveur. Un peu comme un oracle des temps anciens, vénéré par les Sioux et Lakota, comme s'il était en mesure d'anticiper sa propre fin. Funeste présage, les oiseaux ont quitté le ciel. Ils sont partis se réfugier en contrebas, près des tipis bordant les arbres. Ils ont choisi leur camp, eux aussi, notre Custer. Mais voilà que de sa position, il remarque que Reynaud lance ses cavaliers à plein galop dans la pente. Ah, ils vont vite. Un peu trop vite même. Les consignes données à ses subordonnés, déjà, semblent avoir été prises à la légère. Trop tard. Le mouvement est lancé. Que faire d'autre, si ce n'est partir lui aussi? Alors que Custer s'apprête à donner l'ordre de lancer une attaque des plus indécises, la catastrophe se profile déjà à l'horizon. Reynaud est pris de côté par une charge de cavaliers ennemis, hurlant leurs cris de guerre, tirant la carabine à répétition. Il semble déjà en difficulté. Custer ne peut cette fois contenir la boule qu'il a dans la gorge. Ils ont été repérés. Notre histoire commence quelques années plus tôt. En effet, avant même de chercher à comprendre la suite des événements dont Custer est l'une des pièces maîtresses de l'échiquier, il nous faut remettre en place quelques éléments de contexte. Nous sommes au cœur de l'année 1830, à Washington. Andrew Jackson est un président préoccupé. Le quinquagénaire est en plein milieu de son premier mandat et ne veut pas se planter. Il souhaite se présenter pour un second mandat. Et donc, chacune de ses erreurs sera scrutée par les observateurs. Et pour notre homme, une voix, c'est une voix. Il a donc laissé passer la loi qui se vote aujourd'hui au Congrès. Il y est présent, comme la Constitution l'y autorise. Une longue et dense chevelure blanche, des yeux perçants, à l'affût du moindre mouvement parmi les élus qui pourraient lui être opposés. Le président des États-Unis ne laisse rien paraître. Rien ne passe. L'opposition, pourtant, est vigoureuse sur le sujet discuté aujourd'hui. Il concerne les populations de natifs. En effet, jusqu'à maintenant, les problèmes avaient été étouffés dans l'œuf. À droite de la rive du Mississippi, les anciennes 13 colonies et donc le poumon de vie des Blancs. À gauche de la rive, les terres des Amérindiens. Et vous allez me dire, bah donc pas de problème. Oui, oui, mais voilà. De plus en plus d'habitants, appelés par des promesses de richesse et d'expansion, poussent vers l'ouest et se heurtent aux populations de natifs non assimilés. Et il y en a beaucoup. Quelques heures de débat plus tard, l'Indian Removal Act est voté. Cette loi est un texte de déportation pur et simple. Il ordonne que les tribus installées entre le Mississippi et les anciennes colonies soient basculées de l'autre côté du fleuve, sans ménagement. Et les tribus n'ont pas le choix. Elles doivent se plier à la volonté des visages pâles, qui, disons-le, sont de toute façon plus puissants, mieux organisés. Oh, bien entendu, il a fallu donner à ces gens une carotte. L'Indian Removal Act repose sur la notion d'échange de terres. Ainsi, on leur attribue la propriété d'une terre, à leur meilleure convenance, à l'ouest du fleuve, en échange de celle dont on les prive à l'instant T. Mais alors que les tribus assimilées espéraient y échapper, il n'en est rien. Les Cherokees, les Séminoles et les Chactas, entre autres, doivent aussi plier bagage. Et les premiers qui plus est. Le déplacement est effectif entre 1831 et 1838. Le tout vers l'actuel Oklahoma. Cet épisode de l'histoire américaine est connu sous le nom de la piste des larmes. Une marche forcée, tenez-vous bien, de plus de 3000 kilomètres. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Pour ces peuples reliés à leur environnement ancestral d'une manière sacrée, s'implanter dans un nouveau territoire n'a rien d'inné, ni de facile. Sans parler du mauvais accueil fait par les tribus locales déjà présentes qui, souvent, prennent les armes contre ceux qui viennent de poser leur tipi et qui n'ont rien demandé. L'ouest du fleuve Mississippi, en tous les cas, devient une terre amérindienne. Hélas, pour très peu de temps. « les Blancs ne vont pas tenir leurs promesses, ce qui, vous allez le voir dans notre histoire, est assez récurrent. Après l'installation des tribus, elles vont être confrontées à l'arrivée de plus en plus massive de colons venant de l'Est. Les tensions, bien entendu, vont alors se raviver. Deux points d'accrochage majeurs vont apparaître dans les années 1840. En premier lieu, naît ce qu'on nomme la notion de destinée manifeste. En somme, cette idée axée autour du divin expose la nécessité pour les colons de s'installer sur l'entièreté du territoire pour y installer leurs institutions, leur culture, et ainsi porter la parole du Christ en tout lieu. Amen. Et ainsi, écorner l'accord signé avec les tribus en 1830. Le deuxième des points d'achoppement, lui, sera beaucoup plus difficile à vivre pour les natifs. En 1848, des mines gorgées d'or sont découvertes en Californie, le long de la côte ouest. C'est le début de la fameuse ruée vers l'or. Les déplacements de populations blanches, jusque-là marginaux, deviennent massifs. L'appel de la fortune est toujours un catalyseur. Au cœur du territoire, les grandes plaines sont le lieu de terribles massacres de bisons. Les troupeaux, dont les natifs prélèvent uniquement les ressources dont ils ont besoin, sont torpillés par la puissance de feu américaine sans aucune mesure. Certaines parties de chasse voient parfois plusieurs centaines d'animaux être tués par deux ou trois tireurs. De la folie pure. Le milieu naturel des natifs est dévasté. Les tribus sont privées de leurs ressources alimentaires. C'en est trop. La coupe est pleine. À l'aube des années 1850, commencent les affrontements au nord des Grandes Plaines. Des raids de plus en plus féroces sont lancés contre les Blancs par les tribus locales. Un nouveau problème, nouveau traité. Le premier traité de Fort Laramie est signé en 1851, tout près de là où se tiendra la fameuse bataille dont nous allons parler plus tard. Contre l'attribution de 50 000 dollars annuels pendant 50 ans, soit une fortune, les tribus autorisent les Américains à placer sur leur territoire des routes et des forts militaires. Ils viennent tout bonnement de vendre leur âme au diable. Pour les remercier de leur mansuétude, une autre loi est votée visant à créer des réserves indiennes officiellement. Un territoire en particulier est au cœur des revendications natives, les Black Hills, petit espace sacré boisé et poumon des croyances de plusieurs tribus. Les Lakota y vivent et ont permis aux Cheyennes de les rejoindre, puisque les deux peuples s'allient régulièrement quand le besoin s'en fait sentir. Ces deux tribus sont des peuplades guerrières affirmées. Mais rebelote, retour des problèmes, encore une fois. Les indemnités promises n'arrivent jamais. Les colons déboulent de plus en plus nombreux et les terres qu'on leur a promises se réduisent mois après mois. La situation devient intenable. En 1861, la nation amérindienne se divise. Acculée, dos au mur, des chefs Cheyennes signent un traité qui cède les territoires protégés par l'accord signé 10 ans plus tôt. Ils sont accusés de trahison et surtout, ils ne sont pas écoutés. Ceux qui les ont désavoués continuent de chasser le bison ou l'homme blanc sur ces terres qui viennent pourtant d'être vendues au gouvernement américain. L'armée fédérale n'en attendait pas moins pour agir. L'année suivante, en 1862, le Dakota est le terrain de la première guerre des Sioux. Longtemps indécise, la situation bascule 2 ans plus tard, à Sand Creek. Alors que nous sommes en pleine négociation de paix, les fédéraux massacrent les Indiens sans défense. Acte de trahison, véritable pierre dans le jardin du gouvernement. L'avenir des rapports avec l'ensemble des tribus amérindiennes est compromis. Les Américains ne sont pas dignes de confiance. Voilà le message envoyé. D'un point de vue militaire, les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos allient leurs forces face à l'armée fédérale des États-Unis. Pour ne rien arranger, À la suite de ces événements, une route de chemin de fer est prévue le long des Black Hills. Pendant 2 ans, de 1866 à 1868, des raids incessants sont menés par les guerriers natifs contre les forces américaines. La stratégie est payante et surtout, des chefs de guerre très connus émergent, de Crazy Horse à Sitting Bull. Cette fois, ce sont les Blancs qui sont acculés. Ils n'auront d'autre choix que de signer un deuxième traité de Fort Laramie en novembre 1868. Ils promettent sur papier d'assurer la protection des tribus dans les territoires délimités, une aide fédérale pour le développement de l'agriculture pour les peuples, l'abandon de la route ferroviaire et surtout, enfin, la délimitation d'un territoire autonome dans les réserves, interdit aux Blancs. Les natifs sont satisfaits. Mais rappelez-vous, les fédéraux ne sont pas connus pour tenir leurs promesses et ils ne vont pas déroger à la règle. Les natifs vont pourtant gagner quelques années puisque les Américains se battent entre eux durant la célèbre guerre de sécession qui va durer jusqu'en 1865. Ce n'est que 8 ans après ces événements que les Amérindiens des Black Hills verront poindre pour la première fois une moustache blonde qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, celle de Custer. En 1873, le lieutenant-colonel Custer est envoyé dans le cadre d'une mission de repérage le long de la rivière Yellowstone. Le but ? Y établir à terme une compagnie de chemin de fer. Nous sommes alors tout près des Black Hills. Le chef Sitting Bull les oblige à opérer un demi-tour, retour à la case départ, panique boursière à Wall Street après l'abandon du projet. C'est la catastrophe pour les Américains. La bourse devant même fermer ses portes pendant 10 jours. De quoi raviver des tensions jusqu'à leur oublier. Custer, lui, est resté sur ses territoires pour y établir un fort à la limite des Black Hills. Les scientifiques qui sont avec lui vont venir confirmer la présence d'or dans les territoires indiens. Dans un contexte où la crise économique bat son plein, la population de la côte Est, prévenue de cette nouvelle opportunité, arrive en masse. C'est la nouvelle ruée vers l'or. Et voilà le gouvernement bien embêté. Il voudrait récupérer le territoire, mais ne pas violer le traité brutalement, sous peine d'être mis en défaut une nouvelle fois. On tente de le racheter. Refus catégorique. Le prétexte alors est tout trouvé. Les attaques contre les colons déclenchent un ultimatum qui stipule que les Sioux doivent se déclarer au bureau de l'organisme qui leur est dédié, les affaires indiennes. Dans le cas contraire, ils seront considérés comme ennemis. La date butoir, fixée le 31 janvier 1875, sera dépassée sans qu'un seul natif ne vienne se présenter. Les Américains décident alors de mettre leur menace à exécution. C'est la guerre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se plonge dans l'histoire américaine, au cœur de l'une des batailles qui a fait toute sa mythologie, celle de Little Big Horn. Le lieutenant-colonel Custer est à la tête d'un régiment aussi réputé que craint, le 7e de cavalerie. Et au cœur d'un conflit armé avec certaines tribus indiennes qui découlent d'un contexte global beaucoup plus ancien. Voilà le jeune officier partie prenante d'un conflit qui va le conduire tout droit à la catastrophe. Nous sommes le 15 juin 1876. Il est 14h. Le soleil est de plomb. Il frappe les selles et les pièces en fer de l'harnachement des cavaliers avec une vigueur telle qu'il les aveugle. Les hommes enfoncent un peu plus leur chapeau sur leur tête. L'ambiance est morose dans les rangs du 7e de cavalerie. Il fait chaud. Pas de traces des tribus qui se cachent avec une facilité déconcertante. Seul en tête, Custer paraît dénoté, comme d'habitude. L'extravagant officier passe ses doigts dans ses moustaches. Il porte une tenue tout à fait originale pour un cadre de l'US Army. Son chapeau blanc est un point de repère que personne ne peut louper. Ah, il aime la différence. Il la cultive comme un élixir de jouvence, une manière de fuir ses responsabilités bien présentes dans le monde des hommes. Cela ne l'empêche pas, attention, d'être un incroyable chef de guerre. Mais lui non plus, comme tous les autres, n'a pas sa moue des grands jours. Cet hiver déjà, la galère a été totale. Son régiment, parti du fort Lincoln, au nord pour atteindre la réserve des Black Hills, a été contraint d'opérer un demi-tour. La faute à de très nombreuses et intenses tempêtes de neige, faucheuses de chevaux et, plus ennuyeux encore, de quelques cavaliers. Le haut commandement a pourtant préparé son coup, envoyant un autre détachement par le sud pour prendre les natifs en tenaille. Mais à la surprise générale, leurs guerriers ont battu à plate couture les Américains. Les Sioux et Lakota sont parmi les plus redoutables soldats que Custer ait pu avoir à affronter. Il n'a aucune pitié pour ses ennemis, traînant une réputation de tueur de vieillards, de femmes et d'enfants. Et donc, assez logiquement, sa trombine est détestée du côté des Amérindiens. Mais bon, pour tout dire, il s'en contrefiche. Le fantasque militaire. Il a une mission. Il est là pour la mener à bien et point barre. Voilà donc que son régiment arpente les chemins des grandes plaines, à la recherche du Graal depuis plusieurs jours. Et face au manque de résultats apportés par les techniques déployées, Custer a envoyé ce matin en éclaireur le major Reynaud, l'un de ses deux subordonnés directs. Il espère un retour rapide de cet homme, qu'il ne cesse de surveiller avec méfiance. Les rapports sont tendus entre les officiers du régiment. Il faut dire que le personnage de Custer est particulièrement clivant. Une véritable diva dans un uniforme cintré et un talent, une verve, une prestance qui dérange dans les rangs. Il le sait, le lieutenant-colonel, il n'est pas idiot. Mais alors qu'il sort une cigarette de sa botte gauche pour la fumer, un nuage de poussière se dirige au grand galop dans sa direction. C'est Reynaud, son éclaireur. Et hurrah pour la cohésion de son groupe. Il est porteur, enfin, de bonnes nouvelles. Il a débusqué une piste. Celle de convois certainement assez nombreux pour être ceux d'un grand village. Les yeux de l'officier supérieur pétillent enfin. Il les tient, ses ennemis. Et si le coup de boutoir passe par sabrer n'importe quelle âme qui vive, de celle des enfants à celle de leur mère, il n'hésitera pas longtemps. La poursuite n'a pas été facile. Il a déjà fallu convaincre le QG des forces américaines que le 7e de cavalerie devait suivre cette piste. L'accord est obtenu le 22 juin, près d'une semaine après sa découverte. Le 25 juin, au début d'après-midi, enfin, les forces de Custer surplombent en hauteur de la Little Big Horn un immense campement indien calfeutré entre quelques arbres en échiquier sur la grande plaine attenante. Au début, Custer est plutôt partisan d'attaquer le lendemain, mais il a été vu par des éclaireurs et il le sait. Il lui faut garder l'effet de surprise cher à la cavalerie américaine. Alors, divisant en trois bataillons ses forces, il décide de ne plus attendre. Il faut y aller. Pourtant, le plan ne prévoit pas cette attaque directe. En effet, d'autres colonnes arrivent du sud et de l'ouest. Il est parti de l'est avec le général Terry, qui dispose d'autres forces, mais peu importe, il est là, alors il n'hésite pas. Ce qu'il ignore encore, c'est que la veille, les Amérindiens, réunis depuis quelques semaines, ont fait une danse traditionnelle du soleil. Et Crazy Horse et Sitting Bull ont annoncé une grande victoire. Leurs troupes sont donc galvanisées. Custer ne sait pas non plus que la colonne venant du sud, a été stoppé par les armées indiennes le 17 juin. Une attaque surprise qui a participé là aussi à faire grimper le niveau de confiance des assiégés. Ils sont un peu plus de 1800 guerriers répartis en 5 groupes distincts. Lors de l'élaboration du plan d'attaque du camp indien, Custer échange avec un officier qui lui demande de ne pas être trop gourmand et de les attendre. À notre héros de répondre « Certainement pas », dans un sourire plein de malice. La catastrophe est pourtant à sa porte. La première colonne est commandée par le capitaine Bentin, qui se place au sud avec 175 cavaliers. Reynaud, lui, se porte plus loin, descend la colline, traverse la rivière pour prendre le campement par surprise avec le même nombre d'hommes. Reste Custer, qui lui dispose de 210 hommes et fait le choix de rester plus mobile et d'attaquer par le nord. Ces foutus peaux rouges n'ont aucune chance, pense-t-il. Et il se trompe. L'orgueil est un péché capital. Custer s'attendait à affronter 2 fois moins de guerriers et ce camp l'impressionne. Il est long de plus de 5 kilomètres. Je vous laisse imaginer le nombre de tipis. Sa lunette d'observation se porte aussitôt sur Reynaud qui se fait attaquer le premier et repousser quasi immédiatement au pied des collines, tout près des hommes de Bentin. En 2 temps 3 mouvements, Custer se retrouve isolé. Il fait envoyer un éclaireur à Bentin, mais ce dernier ne pointera jamais le bout de son nez. Les natifs regroupent leurs guerriers. Ils savent que Custer est présent à la tête de ses hommes, là-haut, sur le côté nord. Ils décident alors de lui foncer dessus. Face à la menace et sans l'aide apportée par ses 2 subordonnés, le lieutenant-colonel choisit de séparer ses forces en 2 ailes distinctes pour faire face au surnombre indien. Grave erreur. Armé de fusils à répétition, organisé d'une manière exemplaire, les Amérindiens acculent Custer et ses hommes. Pas de pitié. Sur les 210 cavaliers présents avec lui, pas un seul ne survivra. L'officier et ses soldats sont anéantis en moins d'une heure. Custer, lui non plus, ne réchappera pas au massacre. De l'autre côté du champ de bataille, Reynaud et Bentin se sont rassemblés. Ils organisent une ligne de défense qui va tenir plus de 24 heures face aux assauts répétés des natifs. L'arrivée des autres colonnes, que devait attendre feu le lieutenant-colonel Custer avant d'attaquer, provoque le repli des Indiens. Ces derniers vont s'installer au pied des montagnes Big Horn, toutefois après avoir incendié le camp et récupéré leurs affaires. C'est donc à cette date, 2 jours après le massacre, que seront découverts les corps de Custer et ses hommes. La plupart des corps sont mutilés, scalpés, amputés parfois de certains membres. La dépouille du chef, comme un symbole, n'a pas été profanée. 2 balles dans le dos, ses vêtements volés. Voilà comment est retrouvé l'ancien héros. Et le bilan est lourd. Près de 300 tués et blessés pour les Américains. Mais ils ne vont pas se laisser faire. Crazy Horse, après des mois de défaite, est contraint à la reddition au début du printemps 1877. Sitting Bull tire son plan au Canada et les Black Hills, tant convoités, deviennent territoire fédéral. Fin de l'histoire. Voilà comment aurait pu se terminer l'aventure de Little Big Horn. Celui d'un affrontement comme un autre qui a vu les Amérindiens bousculer l'US Army. Et rapidement, de nombreuses légendes vont naître autour de cet affrontement. Pourquoi Custer s'est-il fait massacrer de cette façon? Trahison de ses subordonnés? Manquement de sa part? Tentons maintenant de trouver les réponses.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, leur hache se plonge au cœur de l'histoire militaire américaine et tente de percer les mystères de l'un de ses mythes fondateurs, la bataille de Little Big Horn. Le lieutenant-colonel Custer et ses hommes y sont massacrés le 25 juin 1876. Enfin, pas tous ces hommes. Deux bataillons sur trois s'en sont tirés sans trop de dommages. Et cette différence nette entre le sort de Custer et celui de ses subordonnés va rapidement éveiller des soupçons. Toujours vif aujourd'hui. Nous sommes en juin 1877. Le président Grant, ancien grand général de l'armée américaine, aujourd'hui président de son pays, est furieux. L'écume aux lèvres, les flammes lui ravagent le regard. Il n'arrive pas à se satisfaire du résultat probant obtenu dans les Black Hills. Ah, victoire, certes! Morcellement de la réserve Sioux, revente des terres aux colons et arrêt de l'acheminement des rations alimentaires pour les natifs. Ok, donc gros gain financier. Mais le camouflet de Little Big Horn plonge le peuple dans une colère noire et surtout, il demande des explications honnêtes et franches. Grant est particulièrement embêté pour deux raisons. Le fait déjà que la cuisante défaite ait eu lieu, hasard du calendrier, 100 ans après l'indépendance du pays. Mauvaise année pour se prendre une dérouillée, pense-t-il en son fort intérieur. Deuxièmement, Custer, peu de temps avant de mourir, lui a mis le couteau sous la gorge, l'accusant dans une sale affaire de corruption. Cocktail Molotov donc et problème, puisque le président Grant devient la cible des critiques. Il faut donc trouver un coupable qu'on puisse jeter en pâture sur la place publique. C'est tout trouvé. Ce sera Custer. C'est de bonne guerre, vous allez me dire. Le militaire commandait cette expédition, s'est fait prendre à son propre jeu et puis avait eu la mauvaise idée de se faire l'ennemi du président. Certes. Mais ce qui intrigue, c'est que de nombreux anciens collaborateurs dans l'armée viennent lui casser du sucre sur le dos. Et le premier d'entre eux s'appelle Benteen, présent à Little Big Horn. Celui qui a été averti par le messager que Custer avait des soucis. Vous me voyez venir. Attendez encore un peu. Vous n'êtes pas arrivé au bout de vos surprises. Dans un premier temps, tous les superlatifs les moins enviables sont collés à la peau de Custer. Recherche de gloire personnelle poussant à la mort ses hommes, ambitieux, avide de sang, mauvais tacticien, stratège médiocre. On en vient même à se demander pourquoi le haut commandement l'avait promu à un grade si important. L'hypocrisie médiatique, sur son cas, dépasse les bornes. Pendant plus de 2 ans, les passions se déchaînent. Certains survivants du 7e de cavalerie le défendront dans la presse et les titres, ravis de vendre, goûtent avec délectation au parfum du scandale. Mais si le mensonge généralement prend l'ascenseur, la vérité, souvent boiteuse et moins rapide, finit toujours par arriver par l'escalier. Du moins, la recherche de la vérité va pousser le gouvernement américain à former une commission d'enquête sur le sujet en 1879. Nous sommes 3 ans après la mort de Custer et de ses soldats. Cela vous donne une certaine idée de l'engouement autour de la question de la bataille de Little Big Horn. Et les conclusions de l'enquête vont provoquer une explosion retentissante. Reno, vous vous souvenez? L'officier qui fut attaqué le premier et poussé à se réfugier près de Benteen, à l'opposé de Custer. Il est accusé d'avoir agi en état d'ébriété. Si sur ce point, il est disculpé faute de preuves, on l'accuse également de ne pas avoir porté secours à son supérieur alors qu'il aurait dû le faire. Il va s'en tirer avec une tape sur les doigts. Pour Benteen, la situation est plus préoccupante. Il est accusé de trahison, rien que ça. Il aurait dû lui aussi porter secours. La commission n'élude aucun sujet, y compris le fait que la relation entre les trois hommes était particulièrement tendue depuis le massacre de la Washita River. Pendant cet affrontement controversé, Custer fit massacrer des femmes et des enfants de peur que des guerriers ne viennent mettre à mal une partie de son ravitaillement. C'était en 1868, 8 ans avant Little Big Horn, une éternité. Que ne semble pas avoir oublié Bentin, présent lors de cette exaction, et tout à fait opposé à la manière de faire de Custer. Pour autant, et alors que les partisans du commandant lors de la glorieuse défaite commencent à croire qu'il va être disculpé, patatras ! Les conclusions sont sans appel. Le seul responsable de la cohue et de la dérouillée prise par la cavalerie américaine, c'est bel et bien Custer. Fin du premier chapitre. Il faudra attendre 20 ans, en 1898. Le général Miles se décide à mener une enquête contradictoire. Contrairement à la première commission, le militaire prend en compte les témoignages amérindiens. Et ses conclusions sont totalement à l'opposé de celles faites en 1879. Custer a été trahi par Reno et par Bentin, qui se sont entendus pour le laisser seul face aux troupes ennemies. L'affaire, relancée, ne va alors cesser de faire parler de nouveau. Beaucoup plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1950, les archives de la fameuse commission sont déclassifiées. C'est là encore une terrible déflagration dans le ciel de ceux qui s'intéressent à l'affaire. Les croquis, plans et cartes de la bataille ont été modifiés, altérés. Le FBI confirme alors la production de faux et un nouvel accusé est mis en cause. Le président Grant, qui aurait voulu se venger de Custer à n'importe quel prix. Quel scandale ! Même 80 ans après les événements, qu'un président en exercice joue sans vergogne avec la vérité pour couvrir ses propres méfaits. Mais comme précédemment, aucune preuve n'existe avec certitude afin d'étayer cette théorie. Légendes et histoires s'en mêlent. La fiction devient la compagne de la véracité et les éléments bruts, eux, véridiques, semblent bien compliqués à pouvoir débusquer. Alors d'après vous, Custer est-il un fuyard, un aventurier, un fou en quête d'aventure qui se serait fourvoyé à croire que sa technique pouvait marcher? Ou au contraire, a-t-il été trahi par ses propres hommes qui souhaitaient se venger de lui? Eh bien, je vous laisse trancher la question et nous donner votre avis sur ce mystère encore irrésolu de l'histoire américaine. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation attribuée à notre héros du jour, George Armstrong Custer. Un soir de victoire sur des Amérindiens en surnombre, l'officier s'était écrié « Il n'y a pas assez d'Indiens pour vaincre le 7e de cavalerie !» Dans le Montana, en haut d'une colline baignée par le soleil, un mausolée de pierre et 200 tombes, dont celle de Custer, marquées d'une trace noire, prouvent encore aujourd'hui le contraire. L'orgueil n'est pas l'un des 7 péchés capitaux pour rien, n'est-ce pas ? Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.